Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 17 mai 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec pour commencer... Maintenant, donc, le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV en direct de Cannes.
Et suivi de...
Ça, c'est du soir. Résultat sportif en direct des vestiaires de la Ligue 2 et du fond de classement.
Et ensuite...
Du reggae avec Zarma Fares et Poupa Christopher. 17h, c'est la découverte musicale avec Ça, c'est la bonne vision. 18h, c'est du rock. 10h avec Break Bang. 19h, Made in Trance. 20h, le Stereo Experience. 21h39, Love. Et à 23h, le potage, c'est du rock live. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Du sport n'est pas encore arrivé, mais on profite qu'on n'est que deux là pour dire qu'aujourd'hui c'est une théma copine. C'est l'anniversaire de nos copines respectives.
Je suis pas ta copine. Ah, une théma copine. Ah là là.
Non ? D'accord. Ok, c'est Cannes qui te fait cet effet, tout ça.
C'est quoi ?
C'est d'accord, ok. Je rappelle qu'on fait une programmation cet été, pendant tout ce mois-ci, de mai 68. Le mois dernier, on n'était pas là, mais on va commencer avec Days of Pearly Spencer. Avec David McWilliams. A tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shut. Frosted glass, gazing at the swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone. What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin, you played and lost, not won. You played a house that can't be beat, now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street, where only rats can run.
Try to remember when life was so tender and happy.
Éphémère, 89.1 MHz.
Et c'est le supplément week-end en direct de Cannes. Je capte en direct de internet et de devant sa télévision Thomas qui regarde la croisette.
Oui, je t'entends très bien, d'autant plus que je suis à côté de toi.
Ah non, c'est pas vrai. Oh, t'y es toujours pas allé cette année?
Pourquoi? Y a quoi à Cannes?
Bah, ah oui, c'est vrai que cette année, tout se passe dans le Nord. Voilà. Très, très, très bon running gag cette année, d'ailleurs, des guignols là-dessus. Hein. Très, très fort.
Bah, c'était soit ou Claude Lanzmann qui est chiant, donc...
Donc, le morceau que vous venez d'entendre, comme d'habitude, enfin, comme annoncé pendant tout ce mois-ci, sachant que la semaine dernière, on n'a pas fait émission pour des raisons totalement indépendantes de la longueur du week-end, sont extraits d'une compilation qui est sortie il y a 15 ans, Sous les pavés, la plage, les tubes de mai 68. Et donc, il y a d'autres morceaux qu'on va passer, donc les Days of Pearly Spencer. Personne ne connaît l'intro, par contre tout le monde connaît le refrain, c'est ça qui est étonnant. C'est pas la seule surprise que vous aurez musicale dans cette émission à ce sujet. Mais on reste pas dans la thématique mai 68, quoique presque, puisque en fait on va commencer peut-être par une actualité de bande dessinée qui n'est peut-être pas très drôle. Pour commencer, d'abord la disparition du père de Tufu. Je sais pas si vous lisez Astrapi dans les années 70, 80, 90. Tufu, c'était une espèce de grand ours qui en fait était dessiné comme un Milou obèse et sur deux pattes. Et Martin Berthomier est le créateur de ce personnage, le dessinateur qui l'a créé, qui pendant 30 ans a animé en fait la revue Astrapi. Il est devenu par la suite directeur artistique pour les publications de bande dessinée de Bayard, avec notamment il est devenu directeur artistique d'Astrapi, puis ensuite de J'aime lire. Et il est parti à la retraite il y a quelques semaines. Visiblement, ça lui a fait un choc, puisque donc on a appris cette semaine qu'il s'est suicidé. Voilà, donc c'est un dessinateur qui n'a pas franchement sorti d'album. C'est plutôt un dessinateur de périodique, de prépublication. C'est bien dommage. Martin Berthomier, en tout cas, profondément touché deux générations de lecteurs par ses bandes dessinées bien innocentes. Une autre disparition, celle de Will Elders, qui était traité par un de ses collègues, a dit de lui que c'était un Marx Brothers du dessin humoristique, un caricaturiste talentueux, un éditorialiste, Wolf William Eisenberg, né en 1921, est surtout connu sous le nom de Will Elder parce que ça a été le co-créateur de Mad Magazine avec Harvey Kurtzman. Il a aussi auparavant dessiné pas mal dans les EC Comics avec les Wild Fantasy, Two Fisted Tales, Frontline Combat, donc tout ce qui était plutôt fantastique et tout ça. Mais il est surtout connu pour Little Annie Fanny, co-créé justement par son complice Kurtzman, mais c'était pas dans Mad Magazine, c'était pour Playboy en 1962. Little Annie Fanny, c'était la... Si, t'as le son, y a pas de souci.
Ouais. Bonjour.
Bonjour, Luc. C'était vraiment, l'ingénue parfaite dans un délire. On va dire que c'était les guignols d'info avant l'heure, c'était les spitting image et
non,
tout ça.
Pas exactement ça.
Ouais. C'était un humour à la fois absurde et à la fois politiquement très référencé et adulte. Et pour cause, c'était dans Playboy.
Ouais. Même c'était en fait les aventures de Little Annie Fanny qui se baladait toujours en assez dévêtue, on va dire. Forme remondie et tout. Toujours petite tenue, c'est-à-dire bien moulante et tout. On la déshabillait systématiquement. Il y arrivait des aventures où oh mince, mais je montre qui. Alors tu la voyais qui se tenait les mains parce que tu ne voyais jamais le bout d'un téton ou le bout
d'un poing. Attention, c'était dans l'esprit de Playboy.
De Playboy à l'époque, qui était quand même vachement plus prude, puisque même les playmates, tu voyais rien, quoi. Tu vois, c'était vraiment très soft par rapport à ce qu'on peut voir maintenant. Et ce qui était assez marrant, c'était que l'univers dans lequel elle se déplaçait était un univers un petit peu fantasmagorique, parce que tu retrouvais des petits lutins, des bestioles un peu bizarres qui n'existaient que dans l'imagination de ces auteurs. Et puis c'était plutôt les mésaventures qui pouvaient arriver à Little Annie Fanny, et on s'amusait de voir comment scénaristiquement il pouvait arriver à lui faire enlever ses fringues, c'est-à-dire le trip reposait sur le fait mais est-ce qu'on va pouvoir la voir toute nue et tout, comment est-ce qu'elle va arriver à être dessapée et tout, quoi. C'est ça qui était vraiment très très fin et très très intelligent de la part du scénariste dessinateur, quoi.
Donc oui, l'Elder qui nous a quitté lui aussi cette semaine, mais lui a un âge un petit peu plus avancé et honorable de 87 ans. Et c'est pas pour rien si j'ai parlé tout à l'heure de la rubrique Abrac, puisqu'il a plus ou moins inspiré un certain Marcel Gottlieb. Et ça tombe bien, c'est la première chronique bande dessinée de ce supplément week-end.
Ouais, moi je voulais encore dire, tu parlais justement
Tu me casses l'enchaînement.
Bon, ok, je dis plus rien.
puisqu'on va parler de Rubrique Abracadabra, qui vient de sortir. C'est un gros bouquin, là, avec la couverture rose, un collectif par tous les cahiers de la bande dessinée, sauf Gottlieb, qui vient de sortir chez Garde d'Argo. Je rappelle qu'on est en plein dans les commémorations de mai 68, Patin Couffin, etc. Or, on oublie que c'est justement, donc, en janvier 1968, après moult tentatives, que Gottlieb révolutionne à lui tout seul l'humour d'illustré français en y appliquant l'absurde. À 40 ans après l'arrivée d'En Pilote et le même mois que la disparition de Wilder, son inspirateur, c'est un merveilleux hommage que l'ensemble de la profession française, pardon, excusez-moi, ZEP, en fait, est suisse, de l'ensemble de la profession francophone, sert à son illustre dieu de l'absurde, Marcel Gottlieb. Gottlieb, donc, avait tenté auparavant plusieurs albums à l'humour complètement délirant. On se souvient du Guéluron, on en a parlé justement de là où il était apparu auparavant. On a et on n'oubliera pas le Pilote Dingo Dossier, qui était coécrit avec Goscinny. Et puis un jour, Gottlieb s'est lancé à lui tout seul et va y appliquer donc Absurde, Zabit TV et Qualité Graphique. Oui, j'ai bien dit Absurde. Tout commença par l'improbable documentaire animalier du professeur Burp, où le pélican prend méchamment pour son grade. Puis il y eut Isaac Newton, la chute des pommes sur les perruques et la théorie de la gravitation universelle. Un personnage qui deviendra le grand totem de la RAB, la rubrique à braque, au point d'illustrer tous les ressorts comiques imaginables de chute autour d'un choc de crâne. Marcel Gottlieb, puisque c'est ainsi qu'il faut appeler Dieu. Pardon, excusez-moi. Marcel Gottlieb, puisque c'est ainsi qu'il faut appeler Dieu. 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 Trop fort. Celle-là, elle était vraiment trop bonne. Introduisit ensuite un petit personnage plaisantin qui s'installait dans toutes les rubriques à braque, ayant toujours son mot à dire, même totalement hors de propos ou du contexte, puisqu'on est dans l'absurde. La fameuse coccinelle, au sens apocryphe du terme. Enfin bon. Puis est arrivé, c'est l'arrivée du commissaire bougré de l'inspecteur Charol, parodie des 5 dernières minutes, avec ses immuables faux coupables et suspects insoupçonnables, c'est toujours les mêmes. Et le faux coupable a toujours tout pour lui, pour attirer sur lui des soupçons. Bref. La RAB est un incroyable fourre-tout qui use parfois le même gag répétitif, le séminal choc frontal entre Newton et le fruit, incroyablement créatif et récréatif. Mais hélas, dès février 1968, c'est l'arrivée de Valérian et Laureline dans Pilote qui va éclipser ce nouveau testament. Gottlieb s'en fut fondé deux églises en guise de représailles. L'écho des savanes qui quitta à temps avant de se faire envahir par des pin-up absolument folles de son corps, avant d'imposer son fluide glacial dans tous les pupitres. Se démettre, car cette revue d'humour et de bande dessinée manie le zygomatique adulte et absurde. Sans cette pierre fondatrice, la bande dessinée aurait été que bien peu de choses. Et il fallait, histoire de profiter du filon mai 68 ardo, gaucho, nostalgique, en profiter pour en faire un gros coup commercial. Mais attention, pas n'importe comment, sans la moindre intervention de Marcel Gottlieb dedans. Je rappelle que Gottlieb est encore vivant, on sait jamais. La couverture de Zep met déjà dans l'ambiance. Le dessin d'Enki Bilal, pince sans rire en introduction, m'a fait décrocher la mâchoire. Et on ne compte pas les prestigieux auteurs de l'humour comme ses anciens compères, Pilote, Mandrika, Christin, Mézières, l'école Fluidesque, Binet, Goussens, Edica, Ferry, Maester, CDM, Larsenet, des concurrents jaloux comme Christian Arleston, Tiluc, Mourier ou Zep, et des scénaristes à succès du grand écran comme Tonino Benacquista, s'il vous plaît, Antoine Decaune, et encore Edica. Ah pardon, excusez-moi, c'est une erreur de copier-coller. Bref, du lourd, de l'épiscopal, du religieux, du divin, du rire. La rubrique Abracadabra par tous les caïds de la bande dessinée, sauf Gottlieb, c'est un collectif qui vient de sortir chez Dargo. Jean-David Morvan et Philippe Bûcher au scénario. Je vous laisse imaginer ce que c'est. C'est bien évidemment la licence Sillage. On peut en parler maintenant de licence, même si en fait ils gardent complètement le contrôle dessus. Sur un dessin de José Luis Muñoz Herrera et un dessin de Christian Lerolle, Navis, donc le quatrième tome, Il vous reste de l'énergie, vient de sortir dans la collection Néopolis chez Delcourt. On avait entrevu dans le dernier tome de l'autre série fille de la collection de l'univers Sillage, les chroniques de Sillage, l'utilité des fameuses bandes blanches qui sont sur le corps de Navis. C'est de front qu'on en apprend beaucoup plus sur la véritable origine de Navis. Beaucoup reste à apprendre, surtout sur un Navis elle-même finalement. Et que notamment les différents robots qui étaient dans le vaisseau avaient chacun une utilité. Mais qu'arrive-t-il quand leur logiciel se dérègle, au point de ne plus respecter les fameuses lois de la robotique? Vous savez, il y a trois lois principales et il y a une fameuse loi zéro. Ah. Pour plus d'informations, même pas besoin de relire l'intégrale d'Isaac Asimov, c'est très très bien raconté dans cet album. Et certains fans avaient mis de côté cette série, considérée comme un peu trop enfantine par rapport à l'univers principal de Sillage. C'est un tort, car Morvan a créé un univers global avec de multiples points de vue, mais tout est lié. Donc des informations primordiales pour la compréhension de la série principale passent dans les séries filles, y compris celle où elle n'est qu'une petite fille. Et on apprend de belles sur la future héroïne de Sillage. Jean-David Morvan, Philippe Bûcher, José Luis Muñoz Herrera et Christian Lerolle. Navis, le tome 4 s'appelle Il vous reste de l'énergie. C'est dans la collection Néopolis chez Delcourt. Je me demande si je suis gentil et si je laisse un petit peu de répit à Thomas qui est en train de galoper comme un malade pour finir sa chronique.
Je fais ça, c'est pour le fun, c'est pour te stresser un peu. Mais sinon, la chronique, elle est dans la tête. Hein.
Ah bon, je croyais qu'au contraire, on laissait son cerveau à l'entrée dans ce genre de film.
Ah ouais, mais on n'a pas dit de quoi il s'agissait encore.
David Michelin au scénario, Bob Layton aussi au scénario et John Romita Jr. au dessin, c'est Iron Man, le diable en bouteille. C'est un best-of Marvel, en fait un recueil de la série mainstream qui était sortie là pour le coup durant l'année 79, qui vient donc de sortir et d'être traduit chez Panini sans la censure qu'a subi à l'époque les planches, du moins en tout cas moi je les ai pas relevées. Avec un léger retard par rapport au film, donc sort cette anthologie des aventures de Tony Stark en 79.
Ouais, enfin c'est la version française qui a un léger retard.
Oui. Pour ceux qui ont suivi notre émission spéciale il y a 15 jours, Iron Man, c'est rouge et or, comme disait si bien finalement Adi Granoff. Avec un rapide rappel de son origine à l'époque où l'ennemi était le Viet Cong. Parce que le Viet, on se frittait directement avec lui. Mais les vrais méchants, c'était tous les communistes qui n'aiment pas le capitalisme triomphant, les anarchistes mafieux formateurs d'attentats en Europe, les soviétiques écraseurs de l'Afghanistan, les babacools manipulés qui veulent brûler la bourse, et les démocrates timorés qui sont laissés prendre en otage l'ambassade américaine à Téhéran. Oui, à l'époque, en 1979, ouais, l'Amérique ne manque pas d'ennemis.
L'Afghanistan, c'est un peu plus tard, hein. C'est début des années 80.
C'est en décembre 79, l'invasion de l'Afghanistan.
C'est début 80, quoi.
Oui, mais...
C'est tout est dit dans Rambo 3, de toute façon.
Mais j'allais y venir, justement. Oui, à l'époque, l'Amérique ne manque pas d'ennemis. Et à défaut que le complexe militaro-industriel crée un porte-étendard, avant qu'Hollywood ne crée Rambo, fallait bien peupler les petits illustrés avec un justicier épris de la défense des valeurs américaines dans le monde entier. Entre Tony Stark. Attention les yeux, on est dans le thème de l'époque. Look Disco. Concepteur d'un transistor révolutionnaire, alors qu'il est en mission dans le sud-est asiatique, il se fait capturer par le commandant Wong Chu, mortellement blessé par un éclat d'obus. Tony Stark arrive à persuader ses geôliers qu'il leur fabrique une super arme, alors qu'en fait, il prépare et sa guérison et sa propre évasion. Le grand patron de Stark Industries est un osseur de première, mais surtout tellement préoccupé par plein de soucis, entre Nick Fury du SHIELD, qui malgré son amitié lui annonce froidement qu'il compte racheter les entreprises Stark, le conflit avec Namor, prince des mers, ou encore les ratés de son armure. Oui, un petit réglage, des fois, ça arriverait, ça serait pas mal, hein. On fait dans l'ultra-miniaturisation, des fois on se plante. Tony Stark a beau être un ingénieur self-made man et tombeur, faut reconnaître qu'il carbure pas mal à l'alcool, voilà. Et c'est peut-être son plus terrible ennemi. Ah, jolie bouteille, sacrée bouteille. Kitsch absolu des années disco, c'est surtout la permanente impeccable qui se remet en place quand Tony enlève son homme. La preuve que le gel pour cheveux a bien profité des investissements du complexe militaro-industriel. non, parce que... Une célèbre marque de gel qui porte le même nom que celui du général de la guerre du Golfe, hein, enfin bon... Non, Thomas est trop jeune pour comprendre cette blague. Running gag pour ne pas faire trop noir, ce qui aurait un peu trop désarçonné le jeune public de l'époque. Cette époque est très intéressante parce que ce sont les premières fêlures dans l'armure de Tête de Fer. Véritablement, il y a l'alcoolisme, il y a les doutes et il y a les ratés techniques. Bref, Iron Man devient vraiment un personnage intéressant. Là-dessus du sport, on a déjà parlé il y a 15 jours, petite séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Donc rapidement... Ce n'est pas un super-héros, c'est un justicier. Et pourquoi l'alcoolisme, justement, est très important? Qu'est-ce que cela va impliquer dans la suite, justement, ce qui va se passer après Iron Man, le diable en bouteille? Du sport ne sait pas.
C'est loin, déjà.
Oui.
Et ben, pour tout cela,
mais
moi,
c'est,
je...
C'est Jim Rhodes qui va prendre sa place parce qu'il est plus en état de revertir l'armure et tout, quoi. Et donc, son copain James Rhodes, le Black qu'on voit dans le film, hein, d'ailleurs, hein, qui est présent, mais enfin présent, genre, il fallait mettre un là pour que l'écran soit pas trop...
Attention, quota!
Trop vide, il fallait mettre un personnage en plus et tout, quoi.
Alors, bon, ça y est, tu l'as vu finalement? Hein? Tu l'as vu finalement le film?
Non, mais bon, je me doute un petit peu, hein. Pas de problème, quoi. Et donc, il apparaît dans la deuxième version, parce que dans la première version, on sait pas, hein, quand à la naissance d'Iron Man, on sait pas, hein, qu'il avait un copain au Vietnam et tout le bordel et tout. Et là, justement, la période Michelini-Layton qui pose vraiment les bases, les fondations du mythe et qui a été un run, comme ils disent de l'autre côté, quoi, c'est-à-dire la période durant laquelle c'est toujours la même équipe qui s'occupe d'un personnage ou d'une galerie de personnages. Le run a été vachement long, suffisamment long pour poser vraiment ces bases-là. Et comme il fallait justement une faiblesse, quoi, une faiblesse comme tous les héros, comme tous
un
les super-héros
d'Achille.
Ont une faiblesse, un petit talent d'Achille comme ça. Tony Stark, c'est l'alcool, et on en arrive au point où il peut plus assurer, il est trop pété et tout.
Vous
donc c'est pas la peine.
Puez le whisky. Ah non, de la fille de Napoléon. Donc, parce que attention, il est riche, donc l'alcool qui s'envoie, c'est pas n'importe quoi. Hein.
Ouais, et donc c'est Jim Rhodes donc qui va reprendre le rôle d'Iron Man et qui va revertir l'armure. Ce qu'un autre personnage avait déjà fait dans l'histoire d'Iron Man, mais en fait c'était l'un des jeunes protégés d'Iron Man dans une période précédente, dans les années 70, hein, qui ne prenait pas l'armure d'Iron Man, mais qui avait ses propres armes, qui avec Tony Stark, s'était fabriqué un petit peu son propre uniforme et tout, pour filer un coup de main à Iron Man.
C'était histoire War Machine, non?
Là, tu me poses vraiment la question qui tue, quoi. Un petit peu pour que Tony Stark ait un petit peu un alter ego. Un petit peu comme Batman et Robin, un petit truc, enfin les personnages secondaires, mais qui sont
sauf qu'un mentor alcoolo quand même, ça la fout un peu mal.
Non, là, ça c'est avant, hein, c'est la période avant justement, quoi.
Excuse-moi, j'avais pas suivi. David Lee, Michelin, Bob Layton au scénario, John Romita Jr. au dessin, Iron Man, le diable en bouteille, c'est dans la collection Best of Marvel chez Panini. Attention, ce sont les colorations d'époque, le style d'époque, etc. On est loin du graphisme actuel des super-héros. Certains vont trouver peut-être ça lourd et tout ça, mais nous on aimait ça, le côté kitsch à fond, etc. Et il faut dire que l'armure or et rouge de Iron Man pète littéralement. C'est du fléau, hein.
Ah oui, là c'est le métal qui brille, c'est pas du tout comme la version d'Ali Granoff où c'était du métal brossé. Là c'est. Ça flash, c'est. Ouh!
Ouh! This go! Ouais. Whiz!
Ben c'est pas encore la, c'est plus la ligne claire de Jack Kirby, hein, qui est vraiment très simpliste, minimaliste. C'est quand même déjà un petit peu, on va dire, travaillé, on va dire, hein, par rapport à les ancêtres, quoi.
Ok, on va revenir dans les super-héros juste après une petite coupure musicale. On met un petit truc qui pète de mai 68. Du heavy metal. Statico! LSD Metal que du heavy metal, c'est vrai. Status Quo, quand même, c'est un peu leur début.
Non, mais c'est au début. Hein, c'est,
ouais, ils Picture ont of Mastic Man, c'est leur premier single. Hein.
Ouais, mais ils ont, c'est dans les années 70, 71, 72 qu'ils ont sorti le premier disque qui était vraiment boogie rock, et ce qu'on a appelé après le hard rock à tort.
Voilà, et ça tombe bien parce que on va rester dans la surf culture, mais ça, on revient juste après la publicité. Un peu en avance pour une fois. Hey.
L'association Amacio organise un concert festival le samedi 24 mai à Villefranche-de-Rouergue, salle de la Madeleine, à partir de 20h30.
Avec en musique du gospel acoustique, Maris Freak, pop rock, les petits brins, rock garage, DJ Luigi, Docteur Mu et un live set de John Ryles de Londres.
Renseignements complémentaires au 06 79 24 17 00.
Retrouvez Amacio sur MySpace, myspace.com/association Amacio.
Samedi 24 mai 2008.
Villefranche de Rouergue, 5 euros.
C'était le sponsor pour le cinéma, on est obligé. La météo de la Côte d'Azur vous est présentée en Dolby Mono sur Onde par Thomas.
Ouais, Kochi, ouais. Alors, Aujourd'hui, on va parler d'une bonne grosse bouse, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'une grosse bouse douze.
Ouais.
Bouse. Ouais, voilà. Il s'agit des 4 fantastiques et le surfeur d'argent.
Pardon.
Et le surfeur d'argent. Alors, c'est un film qui
On reste en mai 68, là, en plus. Hein.
C'est un film qui est déjà sorti en DVD et qui n'a aucune actualité. Donc, mais bon, voilà, ça me fait plaisir de parler d'une bouse. Alors, j'ai choisi celui-là. Surtout que c'est un film qu'on a vu cette semaine, donc ça tombait bien. Donc, Susan Storm, la femme invisible, et Reed Richards, Monsieur Fantastique, Mister Fantastique, vont se marier. Et c'est le mariage du siècle et tout, ils font la une des journaux. Mais durant la cérémonie, surgit un avion, une fusée, mais non, c'est un surfeur. Là où il passe, il gèle, mais surtout, les planètes meurent, le monde est dans de beaux draps, d'autant plus que le docteur Fatalis...
Attends, on le refait?
À partir d'où? Oui, là où il passe, il gèle. Mais surtout, les planètes meurent. Le monde est dans de beaux draps, d'autant plus que Fatalis va tenter de pactiser avec le nouveau venu. Mais ce dernier, est-il vraiment un enculé? Voilà, donc...
Je ne suis pas sûr que c'était dans le dossier de presse.
Non, non, non. Alors, c'est bien simple, je crois que je me suis rarement fait autant chier dans un film que celui-là, enfin récemment en tout cas. Enfin, pour moi, il n'y a rien à sauver dans ce film, c'est...
Moi j'ai regardé Daredevil à la télé.
Ah oui. Ben, celui-là, je l'ai raté, mais il paraît qu'il est pas mal, ouais, là, c'est dans son genre. Donc, on s'est emmerdé, mais grave. Alors, dans ce genre de truc, parce que c'est quand même une suite, faut pas l'oublier, tu te dis, bon, ça va faire comme X-Men ou, voilà, ou Spider-Man. Le premier, suivant les franchises, il est pas terrible.
Pose les bases, en principe,
voilà.
Quoi.
Tu présentes tes persos. Dans le 2, tu t'emmerdes pas à poser les bases des persos et tu y vas franco avec des scènes d'action. Et tu te dis, bon, ça va peut-être être ça aussi. Eh ben, non, pas du tout. C'est aussi mou que le premier. Surtout qu'après des films comme Spider-Man, Superman, X-Men, ils ont montré qu'on pouvait rendre bien des scènes de baston et des effets spéciaux avec des super-héros. Ben, comment ils peuvent encore sortir des scènes aussi insipides aujourd'hui avec les 4 fantastiques, c'est-à-dire que t'as 4 persos, bon, tu peux en faire des trucs.
T'as dit que c'était mou ?
Oui. Tu peux en faire des ballets, n'importe quoi, des chorégraphies, voilà. Non, il y a que Chi. C'est. Pour une suite, bah voilà, c'est merdique. Le méchant, bah c'est Julianne Moore quand même. En tant que un peu fan de Nip Tuck, tu dis bon ouais cool, il est encore de là. Mais alors tu te dis bon, le premier fait un accident de parcours, il a été mal dirigé. Dans le 2, non, en fait, Rome était mal dirigé puisque c'est le même réalisateur. Je sais pas ce qui s'est passé.
Non, le premier c'était du placing.
Oui voilà.
Outrancier.
Dans le 2, bon voilà. Donc Fatalis revient et puis voilà, il est transparent comme d'habitude. Autre personnage transparent, Jessica Alba, la femme invisible. Oh oh oh, la blague.
Oh punaise.
Donc Jessica Alba, je crois que c'est celle qui s'en sort le moins dans le film, c'est vraiment pathétique. Richards, bon, le mec c'est James Bond, hein, c'est un mec tout lisse, tout fade. Bon, l'acteur, il fait ce qu'il peut, mais voilà, la chose, bon, là, on avait l'impression que c'était un peu le point central des 4 fantastiques dans le premier, bon, là, il est relégué au second plan. Heureusement qu'il y a la torche, personnage un peu fun, bon, là, ça te... Donc, toi, tu t'endors sur ton canapé, tu dis, ah oui, la torche, ouais, cool. Voilà, bon, le film, c'est vraiment tout naze. J'en parlais tout à l'heure, les scènes d'action, il n'y a rien à sauver non plus. Alors, finalement, vous me direz, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste le surfeur d'argent, donc, évidemment... Le T-1000 de Terminator 2 s'est sorti en 91 quand même.
Oui, avec 15 ans, on a fait très peu d'efforts hein, en modélisation d'hommes de métal.
Ben là, tu fais pareil sur Killian Surf.
Il a fallu 15 ans pour modéliser un surf.
Et malgré tout, c'est quand même le personnage le plus intéressant du film. Alors tu te dis, oula, ça donne une idée du niveau. Hein. Les cas fantastiques et le surfeur d'argent, je crois que c'est une des pires bouses qu'on ait chroniquées sur cette radio. Enfin dans cette émission en tout cas. On va essayer de faire un top 5 des
Mathieu
des plus films. Ouais, mais c'était pas le blockbuster.
Tu l'as de près ton top 5 là?
Non non.
Ah bon d'accord.
Parce que moi j'en ai un de près là.
Ah d'accord.
Non mais on verra.
Ok. Bon ben voilà, c'est tout sur les 4 fantastiques et le surfeur d'argent, film de Tim Story et puis voilà, et en DVD avec Johan Gufrud, c'est le
Gufrud.
Voilà, ah j'ai oublié. Attends, je déplace mon R.
Voilà.
Voilà. Et alors, si vous le connaissez pas, en fait, il va jouer dans le prochain film d'Oliver Stone qui est consacré à W, et il jouera le rôle de Tony Blair.
Voilà, c'est avec aussi Michael Chiklis, le Car Fantastique, Julian McMahon et Jessica Alba. Attends. Et le surfeur d'argent dans son propre rôle aussi.
Bon, bien, c'était pile la fin du disque et on va rester dans le comics. Avec,
non. On va passer au manga peut-être, non?
Non, après. Mais du sport avec une petite
actu.
Ah attitude.
Oui, c'est le.
Oui, on a complètement remédisé en direct, voilà.
Du sport n'était pas au courant.
Non, ça là.
Oui.
Ah d'accord, ok. Bon bah parlons un petit. Moi je voulais juste revenir un petit peu sur ce que Thomas disait à propos des du film les quatre fantastiques, la sous-exploitation des personnages. Il faut savoir que quand les quatre fantastiques sont parus, il y a une certaine époque vers la fin des années 60 quand les quatre fantastiques étaient déjà bien installés et tout, il y a eu un des personnages des quatre fantastiques qui a eu droit à sa série tout seul et c'est qui? Le personnage le plus intéressant, celui que les gosses, bien sûr, c'était Ben Grimm, absolument. Et c'est pour ça que bon bah il y a beaucoup énormément de fans qui ont pas compris dès le premier film pourquoi la chose était sous-exploitée, alors que c'est le personnage qui paraît le plus intéressant et qui paraît être le plus fédérateur. C'est-à-dire que aussi bien un adulte qu'un enfant va pouvoir s'attacher à ce que fait la chose, à ses débordements, parce que bon bah graphiquement c'est quand même le personnage le plus intéressant hein, des quatre fantastiques, ça y a pas de problème. Bon la torche, ok, bon après hein, c'est plus des histoires psychanalytiques. on rentrera pas dans ces détails, mais bon voilà, quoi, c'est pour dire c'est vraiment super dommage quoi.
Enfin en tout cas si les gens reprochaient au premier film d'avoir sous-exploité la chose, eh ben vous serez encore plus déçu dans le 2 puisqu'il est relégué encore plus au quatrième plan.
On reprend.
Bon, on continue avec les comics, mais là il s'agit de Nécrologie, c'est paru dans le dernier numéro de Comic Box. Alors tout d'abord c'est dans l'édito hein, de Comic Box, ça concerne un jeune dessinateur français hein, qui est mort à l'âge de 26 ans. Alors là, bon, bah, ok. Hein, ceux dont je vais vous parler après, bon, bah, ils sont morts de, ils étaient assez vieux quand même. Lui, bah, il est mort à 26 ans. Artiste coloriste, donc Stéphane Perru, qui avait fait la trilogie Shaman, c'est Soleil. Il avait fait des couvertures d'Ultimate X-Men, Teen Titans chez DC, et il venait déjà de sortir le premier tome de Guerre Parallèle. Toujours chez Soleil. Sinon, en ce qui concerne les, alors Rest in Peace bien sûr. Au niveau des nécrologies, bah ils sont trois à être disparus, à avoir droit à leur nécrologie dans le comic box de dernièrement sorti. Tout d'abord, Steve Gerber, né en 47, donc un pas tout jeune, on va dire. Steve Gerber, bien, on le connaît surtout pour un de ses personnages qui a d'ailleurs été porté à l'écran, c'est Howard the Duck. Ah ouais,
oui.
Rappelle-toi, le canard extraterrestre.
Par George Lucas.
Voilà, ouais. Le canard extraterrestre. Il est également connu pour une autre chose qui dépasse un petit peu le thème des comics, à savoir, c'est plutôt dans le monde judiciaire qu'on le connaît. Pourquoi? Parce que ça a été le premier dessinateur et le premier de l'écurie Marvel seconde génération à avoir osé attaquer ses employeurs pour réclamer ce qui lui était dû. Faut savoir que bon bah les personnages créés par les scénaristes, dessinateurs, ce que tu veux, restent la propriété de la maison éditrice, c'est-à-dire Marvel ou DC pour les concurrents. Chez DC, ça se passe un tout petit peu différemment, mais enfin bon, le principe reste le même. Et donc, eh ben, quand le dessinateur ou le scénariste s'en va de chez Marvel, on peut continuer à faire tourner les personnages, à gagner du fric, sans que le dessinateur touche un pécos sur les produits. C'est-à-dire que là, Iron Man, le diamant bouteille, la réédition qui vient de sortir, dont tu viens de, que tu viens de chroniquer, Layton, Micheli, Romita, il touche peanuts dessus. Hein, c'est-à-dire que chi, quoi. Alors que Gerber, lui, dans les années fin des années 70, a été le premier à attaquer Marvel et à dire non, moi je veux mon pognon pour les personnages que j'ai créés et tout. Et c'est le premier à avoir gagné, à avoir obtenu réparation. Et donc son cas a un petit peu fait école, on peut dire, pour d'autres qui après sont dit bon, on peut y aller et tout. Y a pas
et
de
jurisprudence,
problème,
puisque le puisque pour Superman ça a été réglé il y a à peine 2 ans pour donc la famille Siegel. Et si je me trompe, je crois que c'est pour Bob Kane, pour Batman, c'est en cours.
Ouais, c'est en cours. Le deuxième, c'est Dave Stevens. Dave Stevens, né en 55, hein, donc pas si vieux que ça, quoi, on va dire. Et lui, il est surtout célèbre pour avoir créé le personnage de Rocketeer qui a fait un film qui était vraiment pas mal quoi. En plus,
ouais,
hein,
il
qui
était
est sorti
très, très bien.
Au début des années 90-91
dans le style rétro, en plein de, c'était à la fin des années 80, c'était dans le plein dans le style rétro-futurisme des années 30-50. C'était très très fun. Hein.
Voilà, Dave Stevens qui n'a pas tellement travaillé dans les grandes boîtes DC
ou Marvel.
Non, non,
c'était un indépendant. Je crois que c'était sorti chez Dark Horse d'ailleurs, il me semble.
Ouais, ouais, mais enfin, dès les années 70, hein, il a commencé par travailler sur Tarzan, la bande animée. Il a également fait Les Aventures de l'Arche Perdue, plein de petites choses comme ça. Mais c'est surtout Rocketeer hein, qui l'a fait vraiment connaître. Et c'est le personnage qui a qu'il a vraiment développé à fond les manettes. Donc Dave Stevens, rest in peace. Le troisième, Jim Mooney. Alors lui, on peut dire qu'il a bien vécu quand même. Hein. Il est né en 1919. Donc ça va, 1919-2008. Vous voyez, bon, le mec, ça va. Et Jim Mooney, eh bien, tu parlais de Bob Kane avant. Eh bien, Jim Mooney est connu pour avoir dessiné les premiers Batman. Parce qu'il faut savoir que dans les années 40, eh bien, Bob Kane ne faisait pas tous les dessins de tous les épisodes des premiers Batman, parce que ça faisait vachement de boulot.
À partir du moment, où Detective Comics a bien commencé, la première chose qu'a fait Timely, c'était de vendre à des journaux en syndication une bande quotidienne. Et très très vite, c'est justement une des raisons du procès.
Les strips, les comic strips.
Les comic strips, c'est que une des raisons du procès, c'est que l'année suivante, eh ben, les auteurs de Superman et de Batman avaient déjà délégué les dessins, et justement ça a été la constitution de grands studios de dessin de ce côté-là.
Voilà, et donc Jim Mooney a dessiné énormément de Batman de la période d'or hein, de Golden Age hein, c'est-à-dire les premiers dans les années 40 mais n'a jamais été crédité hein. Si vous reprenez vos vieux comics ou vos rééditions, il y a marqué Bob Kane, créateur de dessinateur et tout, mais vous n'aurez jamais le nom de Jim Mooney. Il commence à être crédité quand il passe chez la concurrence. Là, c'est, on a sauté pratiquement deux décennies dans les années 60 parce que c'est le dessinateur attitré chez Marvel. Il passe à la concurrence, bien sûr. De 59 à 68, c'est lui qui dessine Supergirl. Ouais. Et là, ben, on peut dire que ça a vraiment cartonné à fond les manettes. Ben, chez Marvel, chez DC.
Supergirl.
Oui. Non, mais parce qu'il a également fait l'aller-retour pas mal de fois.
Oui, hein, comme pas mal de dessinateurs.
Pratiquement tous les dessinateurs, hein, de toute façon, quoi. Donc, Jim Mooney, qui a commencé d'ailleurs vachement tard, hein, en 1919, il a commencé à dessiner en 1940-42, donc il était déjà assez âgé, on peut dire, il avait déjà passé la trentaine, alors que les autres dessinateurs ont commencé vraiment très très jeunes.
J'avais 20 ans.
C'est leur premier boulot.
S'il a commencé en 40, il a 21 ans, 22.
Ouais, 21 ans quoi.
Erreur de calcul.
Oui, erreur de calcul. Ouais, c'est normal. Je m'emporte souvent quoi. Tu sais, tu me connais. Hein.
Même Thomas aurait pu te reprendre là-dessus s'il arrêté d'envoyer ses SMS à Nicolas.
Ah ben ça, qu'est-ce que tu veux quoi. Donc voilà. Donc pour les nécrologies. La suite?
Bah, c'est avec Thomas qu'on reprend avec la bande dessinée. Toujours une dernière chronique à midi 42.
Là de suite, hein?
Ouais.
Alors, on va parler de jeux vidéo là. Puisqu'en fait, c'est quand même un manga, je vous rassure. Donc, il s'agit de Kumakuma, tome 1 par Yuki et Kaji, et c'est chez Ankama. Les deux sœurs Lynn et Ginny
achètent. Tiens, les ch'tis. Oui. On est envahi.
Les deux sœurs Lynn et Ginny achètent un jeu vidéo dans une mystérieuse boutique. Il s'agit de Kumakuma, un jeu d'aventure par équipe. Accompagnées de trois amis, elles vont s'embarquer dans une partie en ligne mémorable. Alors voilà. Donc,
c'est marrant, ça me rappelle le script de Dot Hack.
Je ne connais pas d'autres.
Ah,
hein.
D'accord.
Le premier truc qui saute aux yeux. Alors,
c'est
qui veut. Alors, c'est une BD qui marque par son parti pris graphique, hein, puisque très simplifié. C'est trop kawaii. Voilà, c'est, les personnages sont SD.
Miss Van, si tu nous écoutes, plutôt Kate Fafi d'ailleurs dans le graphisme.
Voilà, donc c'est du noir et du blanc et du beaucoup de gris. Donc si vous. C'est pas du Taniguchi, hein, voilà, c'est juste un truc à savoir. Alors, en fait, on pourrait caractériser cette BD comme un manuel du jeu d'aventure pour les nuls. Donc si vous connaissez rien, donc vous apprendrez ce que sont les potions, les capacités complémentaires, les personnages clés pour les guider, les mini-quêtes, les hôtels pour récupérer les points de vie.
Ah, c'est pour apprendre à jouer à Dofus.
Peut-être, oui, ou un Secret of Mana, ou les jeux de Square, il y a des monstres à vaincre, etc. Alors, il y a aussi des petits clins d'œil à la culture manga, puisqu'évidemment, j'ai repéré un clin d'œil à Dragon Ball à un moment donné, puisqu'ils vont dans un village pour améliorer leur arme et acheter des potions. Donc, C17, c'est le forgeron, C18, c'est elle vend des potions. Un truc assez rigolo pour ceux qui connaissent. On a un petit jeu amusant aussi, puisque quand tu joues à des jeux vidéo d'aventure, en fait, il y a des personnages pour te dire dans ils sont en train de te parler, et puis pour vraiment que tu fasses attention là où il faut aller au prochain, c'est va nous rencontrer le maître dans la zone des pitons rocheux de l'Est. Voilà, donc là c'est en gras, hein.
C'est les noms des variables, en fait.
Voilà. Les mots importants sont en gras, les lieux, les personnages, etc. Donc c'est assez rigolo.
Oui, d'ailleurs, maintenant que tu le dis, les dialogues sont immanquables.
Oui, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kumakuma, bien sûr, n'est pas un jeu comme les autres. Dès qu'ils ont acheté le jeu, les deux sœurs, il y a l'espèce de tour qui était le magasin de jeux. Je crois qu'il y a Xavier qui te fait signe d'ailleurs du sport. Dès qu'elles ont acheté le jeu, évidemment la boutique disparaît, comme par enchantement ça fait pof. Les joueurs, quand ils ont fini le jeu, la nuit ils rêvent du jeu. Bon, ça vous me direz, c'est normal, hein.
Ouais, moi je rêvais que j'empilais des blocs de Tetris en 88.
Moi pareil. La frontière commence à s'amincir.
Je vais faire une partie.
Quand même timide, puisqu'on aurait pu imaginer que ça allait beaucoup plus loin. Genre, tiens, suis-je dans le jeu, suis-je dans la réalité? Bon, évidemment, vous allez me dire, on n'est pas chez Cronenberg, mais quand même, t'es en droit d'attendre un petit peu plus de la part de cette série, puisque il faut savoir que c'est le premier tome d'une série en 3 tomes. Alors on espère que, tiens, nous avons un ami qui vient nous rendre visite. Nous saluons JB.
Ça faisait longtemps. T'en fous, continue ta chronique, je veux pas savoir.
Attends, je dis bonjour.
Ami auditeur, on va essayer de caler un micro, ça sera loin.
Voilà, donc j'étais en train de dire que donc c'est le premier tome d'une série de 3. Kuma, ça veut dire ours. Donc à chaque fin de tome, ils devront retrouver un ours perdu. Donc il s'agit de Futakuma dans le premier. Alors dans le dossier de presse, il y a marqué oui. Alors comme il y a 3 tomes, et c'est Kuma à chaque fois, donc on aurait dû l'appeler Kuma, mais ça faisait trop long. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé que Kuma. Ça, c'est assez rigolo.
Kuma Cube. Dessinatrices.
Oui, c'est dans deux dessinatrices, mais c'est une équipe qui est derrière. Donc je mets il. L'impression générale quand on lit cette BD, c'est que c'est un peu plat, en fait. Tu dis on dirait que t'es devant une suite de cinématiques d'un jeu d'aventure, un jeu que toi tu n'aurais pas fini. Qui dit jeu, ça veut dire qu'il y a une solution à toutes les énigmes, et par définition tu vibres pas beaucoup, puisque tu dis de toute façon elles vont avoir la solution. De toute façon, les personnages ont les capacités pour vaincre toutes formes de situations, tous les ennemis à vaincre, donc tu te dis de toute façon ils vont s'en sortir, t'es là, ouais bon, sympa, bon c'est un clin d'œil à la culture jeu vidéo, mais bon, oui, bon de toute façon tu sais comment ça va finir, ils vont gagner, bon. Alors que parallèlement, ce que dit Tankama d'habitude, tu dis, malgré le dessin peut-être un peu kawaii ou naïf des fois, tu te dis, là je m'attendais pas, là. Bon, là c'est cousu de fil blanc, c'est un peu dommage, ça reste quand même... Ça reste quand même un truc à voir, mais c'est vrai que si vous connaissez bien Ankama, vous risquez d'être un petit peu déçu par ce titre. Alors il s'agit on rappelle les références, de Kumakuma, le tome 1 par Yuki et Kaji, et c'est édité chez Ankama Edition.
Bonjour JB, je vois qu'il est à moitié réveillé, tout suant, qu'il a bien galopé et tout ça.
Tu es réveillé depuis très longtemps, mais là je sors du boulot et je me suis dépêché pour venir.
C'est très sympathique.
Tu brilles, hein. On a oublié de te maquiller avant de venir.
Ouais, allez, maquillage.
Alors je finis juste, parce que j'en profite que JB soit là, je sais que c'est un adorateur fanatique de manga.
J'adore ça.
Donc
c'est faux, hein, voilà, c'est
on
l'humour.
On va juste rappeler qu'il y a Death Note tome 9 qui est sorti. Puisque j'ai dans les mains là, on a beaucoup chroniqué Death Note sur cette antenne. Précipitez-vous si vous connaissez pas, mais c'est vraiment du très très bon scénario diabolique, personnage, mais vraiment ambigu à souhait. Tu te dis, mais je peux pas m'identifier à cette ordure, mais malgré tout, tu t'identifies à cet enculé qui bute c'est un tueur en série, en fait. Il y avait une petite baisse de régime dans le 8, là, le 9 c'est parti, la deuxième moitié, vraiment c'est du très bon. Donc, il faut savoir que c'est une série en 12 tomes, il y en a pas beaucoup. Donc, Donc voilà, si vous cherchez des séries pas comme One Piece où il y en a 47 déjà pour le moment, donc là il y en a que 12, on en est déjà au 9. Donc voilà, c'est quand même une excellente série qui a été qui a été bardée de prix l'année dernière et qui continue vraiment sur sa lancée, c'est vraiment du très bon, hein, voilà.
Dont j'ai vu que la sortie de la série animée en DVD, c'est dans vos kiosques là, ça vient de sortir là, il y a pas
voilà,
c'est montré, hein. Bon.
Voilà, la série est jouit d'une excellente réputation parmi les fans de Death Note, contrairement au film, qui certains parties pris sont assez ratés puisque les dieux de la mort qui accompagnent le héros sont en 3D.
C'était pas cher. C'est le supplément week-end de Radio FMR, 12h50, voilà. Et comme vous le savez, c'est un spécial mai 68 dans la prog musicale, mais d'un autre côté, c'est en même temps la période du festival.
Je sais pas.
To remember when life was so tender and happy.
Allez, vas-y, Dus.
Ah bah comme c'est Cannes.
Aux amis qui n'ont pas la couleur, ils loupent un grand moment quand même de crise de fou rire. Entre le t-shirt de The Crop Zone du Sport, mon costard, celui de bière de Thomas et le cuir de JB, c'est pas mal.
Alors c'est Cannes donc, et comme je m'occupe également de vous chroniquer un petit peu de sport sur cette antenne, après, hein, si vous restez assez longtemps, après je vous parlerai un petit peu de sport. Il faut savoir que dans l'équipe, à l'occasion du Festival de Cannes, l'équipe a décidé un petit peu de s'associer à cet événement et chaque jour on peut retrouver un petit peu un film, voire deux films chroniqués qui parlent de films consacrés au sport, bien entendu, puisqu'il s'agit de l'équipe. Et pour la première, c'est-à-dire à l'occasion de l'ouverture de ce festival, c'est mercredi dernier, on a demandé au directeur général, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le patron du Festival de Cannes, Thierry Frémaux.
Oui, qui a remplacé Gilles Jacob.
Voilà, qui a remplacé Gilles Jacob. Quels étaient les films préférés, quels étaient ses films préférés en ce qui concerne les films de sport?
Gilles Jacob, il est toujours par là.
En coulisses. Alors, il y a deux classements qui sont sortis donc dans l'équipe de mercredi dernier. Alors, ceux qui ont acheté l'équipe mercredi dernier, c'est pas la peine, vous le savez. Pour les autres, tout d'abord, le classement 10 films, même 11, 16 films pour Thierry Frémaux. Et l'équipe, le site équipe.fr a fait un petit sondage sur le net pour savoir quels étaient les 10 films préférés des visiteurs de l'équipe TV en ce qui concerne le film sportif, bien entendu. Alors, si t'as ton top machin après, on peut faire un petit truc.
Le top machin là. Allez, envoie le top machin.
Faut prévenir quand même.
Allez, vas-y.
1, 2, 3.
Le top 5. Numéro 5
de la liste de Thierry Frémaux, c'est Par l'épée, un film de Jeremy Paul Cagan en 92, que tu connais très bien d'ailleurs.
Tout à fait, oui.
Il sert de chevet d'ailleurs, pour caler le...
Je parle dans l'axe, parle dans le micro, s'il te plaît.
Numéro 4.
Là, c'est un grand classique, c'est un film de Kurosawa qui s'appelle La légende du grand judo. Le gros classique.
Oui.
Immanquable.
Numéro 3.
Alors celui-là, là tu peux courir et tout quoi. Non mais c'est normal, c'est Thierry Frémaux, c'est un cinéaste, tu vois, donc il a choisi des films un petit peu obscurs quoi, tu vois. Là il s'agit de Weed, d'un film de Carole Ballard de 92, film qui parle de la Coupe de l'América à la voile et de la défaite du bateau américain, les boules, et ça se passe au début du siècle.
Numéro 2.
C'est un très vieux film, muet, mais 1927, qui s'appelle College, avec un certain Buster Keaton dedans. Et là, il se justifie un petit peu quand même par rapport à ce film, en disant que c'est pas parce qu'on voit Buster Keaton accomplir des performances sportives, c'est-à-dire jouer au baseball ou je sais pas quoi, mais c'est parce que à l'époque, et là il cite également Charlie Chaplin et tous les grands acteurs du muet de l'époque étaient également des gymnastes, des sportifs accomplis, vu les cascades qu'ils devaient faire, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de trucage, ça se faisait en live, et si tu faisais mal ton trucage, tu passais à la trappe quoi, tu crevais quoi.
Mais c'est des grands malades.
Voilà, c'est ça. Il y a qu'à voir, il y a un exemple marquant, hein, c'est si vous connaissez votre petit Buster Keaton, quoi, il y a une scène absolument dont on se souvient, quoi, de toute façon, quoi, c'est Buster Keaton qui est comme ça, les bras croisés, et t'as carrément un pan de mur qui lui tombe dessus, quoi, de 3 étages, carrément, quoi, et blam, le pan de mur s'effloule, et en fait, lui, bah, il passe juste à travers une fenêtre qui est restée ouverte et tout, quoi, et faut savoir que c'était un vrai mur avec des vraies briques et tout, quoi, que s'il faisait un petit pas de côté, il se faisait écrabouiller la gueule, et on parlait plus de Buster Keaton du tout, quoi, donc là, vraiment les mecs très très forts, et le number one,
numéro uno.
Là, il s'agit d'un film que vous avez tous vu et que vous avez tous apprécié. Avec une des répliques cultes.
Rocky,
je suis ton père.
Non, 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 non. Une des répliques cultes qui a servi à José Garcia à se faire un nom.
You talking to me?
You talking to me. Ah, Taxi Driver.
Non, c'est non. Pas Taxi Driver.
You fuck my wife. Ah, Raging Bull.
Voilà, ouais. Raging Bull. Alors ça c'était le classement de Thierry Frémaux. Alors à signaler qu'il y a également un peu plus loin par exemple Rocky qui n'est qu'en numéro 7, mais à égalité avec Le Champion, également un film de boxe, Gentleman Jean, encore un film de boxe, et Fat City, encore un film de boxe. Je veux dire que les films de boxe, de toute façon, quoi, au niveau film, c'est ce qu'on a fait de mieux, hein, à mon avis, hein, c'est ce qui rend le mieux, de toute façon. Il manque quand même dans ce classement, et ça, c'est un peu en enfoiré, parce que c'est vraiment un grand film de boxe et tout, même si la boxe passe au second rang, on va dire.
Casablanca Driver.
Non, pas du tout. Il s'agit du fameux Nous avons gagné ce soir. Eh ouais.
Je pensais qu'il aurait mis à mort l'arbitre, je sais pas.
Non, il n'y est pas, quoi. Alors par contre, eh bien.
Ça parle de sport, ça parle du foot dans toute sa splendeur.
Attends, il y a JB, le micro qu'on n'entend pas. Qu'est-ce
vas-y,
que tu
vas-y.
Dis
ouais, c'est vrai, il a pas cité coup de tête.
Non, il n'y est pas, non.
Il a pas cité. Attends, je disais quoi comme connerie? Oui, de l'ombre à la lumière.
Non. Vas-y. Ouais. T'en as encore d'autres là comme ça?
Les chariots de feu?
Les chariots de feu, oui, mais derrière. Alors maintenant, les 10 films préférés des visiteurs, c'est-à-dire des gens qui sont allés sur le site de l'équipe et qui ont voté. Non, c'est pas la peine, on va se le faire vite fait, quoi, et tout, quoi, parce que bon, là, c'est un petit peu plus rigolo, quoi, quand même. Alors, en numéro 1, bah, c'est également un film de boxe qui a été oscarisé il y a pas si longtemps que ça.
Ali.
Ah non.
Non. Un film
encore plus récent.
Encore plus récent.
Avec un de nos réalisateurs et acteurs cultes.
Oh, ben, Rocky 6.
Non,
avec Van Damme.
Non, ou c'est un film de boxe, mais là c'est une nana qui boxe.
Girlfight,
Million Dollar Baby.
Voilà, en numéro 1, plébiscité par 13,31% hein, des visiteurs. En deuxième, alors là c'est là que c'est vachement rigolo et
Star
tout.
Star Wars.
Quoi. Pas du tout, non. Film de sport, quoi.
Ah,
oui, toujours du sport.
L'enfer du dimanche.
Alors là, non, pas du tout.
Shaolin Soccer.
Non. Alors c'est un film Disney.
Gorge profonde.
Shaolin Soccer, t'es pas loin parce que c'est vraiment un film où tu te fends la gueule, tu mords de rire.
Un film Disney,
live ou dessin animé?
Non, live. Un film Disney.
Sur le sport.
Récent.
Oui.
Récent.
Oh non, 93.
Rasta Rocket.
Yeah. Rock and roll. Alors le troisième, déjà cité en numéro 1 par Frémo, c'est Raging Bull. En numéro 4, le film que vous avez cité avant de Jean-Jacques Hano avec l'inénarrable
Patrick
Dewar, magnifique, excellent et tout, et surtout le allez trinquant. Rappelez-vous. Allez, très grand. En numéro 5, vous l'avez cité également, Les Chariots de Feu. En numéro 6, vous l'avez cité Rocky. En numéro 7, vous l'avez cité l'autre film de boxe qui a été oscarisé.
Bah, Ali.
Ali, évidemment. En numéro 8, et là, je suis vachement content. Après, il faut dire qu'il le cite également, Frémo, il le met en numéro 14. Là, il est en numéro 8, hein. C'est le film qu'il faut voir si tu comprends rien au foot américain et tout. Tu comprends
l'enfer du dimanche.
Tu comprends pas plus après, mais c'est pas grave parce que le film est absolument magnifique. Si, c'est l'enfer du dimanche.
Ah, il est énorme.
C'est énorme film, hein. Any Given Sunday, le titre original, c'est, y a rien à dire, quoi. En numéro 9, Rocky 3, quand même. Et en numéro 10, alors là, c'est un de mes films fétiches, quoi. Un film dont la musique originale a été faite par le plus grand compositeur de musique originale du monde.
Derrière la porte verte.
C'est un film qui n'est pas vraiment un film
Vangelis.
De sport, mais dans lequel il y a un tournoi, donc voilà quoi.
Harry Potter 4.
Bah, absolument pas.
Chariot
absolument
de feu.
Pas.
On l'a déjà dit. Alors c'est quoi, comme sport?
Tu nous donnes quelle décennie, s'il est.
Alors 73.
Très bonne année.
73. Alors c'est pas un film vraiment sur le sport, c'est
Il y a un tournoi dedans quoi.
Et alors bon, le compositeur faut trouver. Alors pas Vangelis, Hans Zimmer.
Morricone.
Morricone.
Non.
Merde.
Moroder.
Un mec qui faisait des bandes originales de séries.
Alors oui.
Lalo Schifrin.
Oui. Oui. Pardon. Et attention.
Ah, Rollerball.
Mais non.
Oh.
Alors. 73.
Ah, le bip en plus.
Là, je sèche. Ouais.
Vous avez passé tout.
Non,
dédicace à Lucien Jeunesse qui a été enterré cette semaine en Bretagne. Il s'agit d'Opération Dragon. Bien sûr. Voilà.
Attends, on va se flageller en direct dehors.
Oh non, ça n'a rien à voir.
Tiens, prends ça.
Comment le tournoi.
Parce que là, si tu dis film de sport, il y a tous les films au Congrès sont des films de sport à ce niveau-là. Parce que
non, mais là, le motif du film, c'est quand même l'organisation du tournoi qui lui permet justement d'aller sur l'île pour démasquer le méchant. Donc c'est quand même un sport, il y a une compétition quoi.
Oui, d'accord.
Okay.
On aurait pu aussi citer Battlefield Baseball avec du pas beaucoup de baseball mais beaucoup de
zombies. Ouais.
Et on aurait pu citer aussi je ne sais plus mais il y en a d'autres.
Ouais non mais bon.
Je sais pas ce documentaire allemand
Dodgeball, Dodgeball sur la balle au prison.
Ouais, ce documentaire
Dodgeball.
Allemand de 1939 hein. Chantons pour le sport, un cœur joyeux, chantons l'essor de la jeunesse qui se moquant de la gloire.
Ça a pas l'air ce que ça demande, ça.
C'est André Dassari. C'était le, comme on fait un spécial mai 68, chaque fois que du sport parle de sport, on parle le générique du magazine des sports de France Inter en 68. Et c'était le même qui chantait Maréchal nous voilà, mais ça c'était 25 ans plus tôt.
Je suis désolé, j'étais pas là en début de séance.
Avec à suivre le podcast.
Wow. Bon, à présent, Comic Box est sorti depuis le début du mois. Et on va le faire vite, hein, parce que bon, on est un petit peu en retard. Alors, la BD inédite, c'est cette fois DC avec Superman et Batman qui combattent le Dr. Light. Ouais.
Docteur Léger?
Non, Lumière. Lumière, hein. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à le choper, ils l'enferment dans le noir, quoi, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à le choper.
Ah, tu vois, c'est métaphysique.
Très fort. Sinon, toujours des articles très intéressants, dont un gros article, et bon, là, c'est vachement intéressant, mais par contre, on a un peu les boules, nous, en France, parce que Comic Box, ils se font un malin plaisir à chaque fois, à chaque parution, de nous spoiler ce qui va sortir en France dans 5, 6, voire 10 mois, parce qu'ils nous parlent des sorties des comics et de ce qui va arriver aux différents comics aux États-Unis, c'est-à-dire pratiquement en temps réel. Et comme nous, avec les traductions, avec l'achat des droits, tout bordel et tout, on attend, pour World War Hulk, ils ont fait très fort parce que c'est sorti 3 mois après, mais des fois on attend 5, 6 mois. Donc là, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer. Alors pour Marvel, là, c'est quand même le gros événement. Hein, qui est décrit dans Comic Box quoi. Après l'énorme arc qui était Civil War, bah qu'est-ce qu'on va foutre quoi? Eh ben il faut continuer à foutre le bordel. Alors comment on peut foutre le bordel? Eh ben on va faire revenir qui ça? Un des vieux ennemis de pratiquement tous les super-héros Marvel, les Skrulls. Les Skrulls c'est qui? Bah c'est des extraterrestres qui ont le pouvoir, pouvoir métamorphe, c'est-à-dire ils ont le pouvoir de se transformer en n'importe quel autre individu. Et donc ça. C'est assez rigolo parce que bon, il faut savoir que dans le premier épisode dans lequel on voit apparaître les Skrulls, c'est dans les 4 Fantastiques dont tu parlais avant et tout quoi. Et c'est très rigolo parce que c'est Reed Richards qui arrive à faire repartir les Skrulls de là où ils viennent, parce qu'ils viennent pour envahir la Terre, pour bouffer tous les
oui,
tous les Terriens.
Oui, t'en avais parlé dans un comic box. Ouais.
Et donc lui, rien que en leur faisant lire des comics où il y a des monstres affreux et des trucs comme ça, il essaye de leur dire ouais là c'est comme ça que ça se passe sur Terre et tout. Et les Skrulls sont complètement horrifiés et tout quoi. Donc ils disent non, si c'est comme ça et tout quoi, c'est pas la peine. On se barre, on retourne chez nous et tout quoi. Donc les Skrulls ils se rebarrent et tout parce que Reed Richards leur a montré des comics quoi dans lesquels il y avait des super monstres.
C'était un peu pour se foutre de la gueule du Comics Code Authority de l'époque.
Oui, tout à fait. Et surtout que les Skrulls repartent chez eux quoi. Mais il y en a 3 qui restent sur Terre et tout quoi. Et pour qu'ils soient inopérants, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à se transformer quoi, il arrive à les métamorphoser en vaches. Et des vaches qu'on va retrouver 20 ans plus tard dans les années 80.
Oula, depuis le lait a tourné, hein, c'est des vieilles cartes.
Ouais, non, mais bon,
c'est de la vieille carte. Hein.
Attention, hein, c'est pour vous dire que les chemins sont très sinueux, hein, ce qui concerne les scénarios et les histoires. C'est pour rattraper le coup, tu vois, quoi. Genre, ah merde, mais attends, il y a 20 ans, ils étaient comme ça, attends, il faut les rattraper et tout. Il y a également d'autres articles intéressants, ainsi que l'interview qui tue. Bon, c'est normal, il était à Angoulême, donc ils ont sauté sur l'occasion. De Chris Claremont.
Ouais. On a refusé, nous.
Mais ouais, nous, on était royal.
Moi, je veux dire.
Snob.
Par rapport à ce que Chris Claremont raconte dans cette interview, quoi, bon, moi, je suis vraiment déçu. Pas parce que Chris Claremont raconte un petit peu le processus créatif avec les personnes, les types avec qui il a travaillé, mais parce que on dirait que c'est le type qui est complètement inféodé à Marvel et qu'il en a rien à foutre. Hein. On parlait avant d'histoire de droit, de personnages et tout. Claremont a inventé je sais pas combien de personnages. Il a réinventé le look de Magneto, enfin des personnages vraiment marquants dans l'histoire de Marvel, mais il s'en fout de pas avoir de droit. Lui continue de travailler avec. Et bon,
il est rédacteur en chef de Marvel.
Oui, il est toujours actif, hein, parce que bon, bah, il s'occupe des Puissants Vengeurs, il a 4 séries sur le feu en même temps, quoi. Enfin bon, lui bosse, y a pas de problème, quoi. Tranquille, quoi. Mais par contre, bon, il n'a aucun droit sur ses personnages, les personnages qu'il a créés chez Marvel, quoi. Et il a vraiment l'air de s'en contrefoutre, bah, absolument. Non, mais force, c'est bien, c'est toujours bien. Tu sais, c'est il est vraiment là, tranquille et tout. Je cherche pas le fight. Non, mais là. Et puis les petits problèmes que t'as eu avec Stan. Non, mais c'est pas grave, t'en fais pas et tout. C'est cool. Bon, je suis un peu déçu quand même, hein, par Chris Claremont dans cette interview. Et il y a également ce qu'ils avaient laissé un petit peu tomber, quoi, dans les précédents numéros. Les planches contact, qu'on s'acquitterait à un dessinateur. Et là, c'est Alexis Bricklot. Et là, je pense que tu vas.
Tu pleures ta mère.
Là, tu vas un peu pleurer quand même, quoi. C'est voilà, quoi. Ok. Voilà. Je commente. Alors, le comic box passe de main en main et
on essaie de pas baver sur la
très
page.
Intéressant, voilà, quoi. Ensuite, un autre périodique avec un personnage de comics à l'honneur, et c'est assez bizarre car il s'agit quand même de Mad Movie, donc un magazine de cinéma décalé qui a en couverture The Spirit.
Cette hideuse revisitation par Frank Miller du Spirit, je trouve à chier ce dessin, franchement.
Arrête de dire ça, on croirait Radio entre 11h et midi, là.
Voilà, alors bon.
S'il te plaît.
Alors,
on dit qu'on ne sera pas chiant.
Il y a le Spirit, hein, réalisé par Frank Miller, qui a repris un petit peu les ce qu'ils avaient fait avec Sin City, quoi, avec Roberto. Et là, c'est Frank qui réalise tout seul et qui donc revisite un petit peu l'œuvre de Will Eisner. Et sinon, les rubriques habituelles avec les films vraiment trash gore de chez Gore, tout ça. Donc et bien sûr. N'oubliez pas, hein, vous avez lu la première partie de la carrière de Boris Karloff, la deuxième partie de la carrière de Boris Karloff, c'est dans ce numéro de Mad Movie, ainsi que plein d'autres petites choses. Alors moi aussi j'avais une petite BD à chroniquer. Non, c'est pas vraiment une BD, mais c'est un dessinateur de BD qui vient de sortir.
Oh, merde, j'ai pas les bons fonds.
Aux éditions de la Martinière, le fond, je vais te le donner, hein, parce que ben à l'intérieur de ce bouquin il y a un disque, tu vois.
Attention, amis auditeurs, je vous préviens, c'est de la tuerie,
tiens,
pure et de la culture.
Vas-y.
À connaître absolument. C'est plage numéro.
Alors tu mets le 8.
Le 8.
Ouais, tu mets le 8. Alors c'est Robert Crumb, donc plus connu pour ses personnages, on va dire, de la période psychédélique, Flower Power, Mister Natural, la nana
les
avec les gros lumières,
c'est tout ça.
Et surtout, le chat classé X.
Et le chat de Fat Freddy.
Mais non, pas Fat Freddy. Fritz de Cat, bien sûr.
Ah merde,
mais oui,
excuse-moi.
Bien sûr.
Mais il débute en BD Xavier, c'est faux.
Qui avait été un petit peu retravaillé par Alf Bakshi, hein, bien sûr, hein, pour le dessin animé. Vraiment très très chaud, quoi. Là, ce qu'on entend derrière, c'est Talkbox, un morceau Doc Bugs. Un vieux mineur du Kentucky qui jouait également du banjo et qui a sorti 8 morceaux enregistrés seulement, hein, en 27 et en 28. C'était un banjoiste, mais il faisait également de la musique à mi-temps. et d'ailleurs un style un petit peu inimitable et tout quoi, et les gens ont cherché à rejouer comme lui faisait quoi, parce que lui changeait d'accord à chaque morceau alors que le banjo déjà c'est hyper compliqué à jouer, et rien qu'en gardant le même accord, le même accord de corde et tout, lui bah il changeait les accords de corde et tout quoi sur le morceau, alors pour te dire que le mec bon, il touchait quand même pas mal. Alors c'est un bouquin fait suite à ce qu'il avait déjà sorti il y a quelques années et qui concerne eh bien l'histoire du jazz, l'histoire du blues. Là, eh bien, c'est condensé un petit peu le blues, le jazz et la country. Héros du blues, le jazz et la country. Alors au total, il y a quand même des portraits. Alors le portrait croqué en dessin, bien sûr. Il s'agit de Robert Crumb, hein, et avec à côté une petite notice explicative sur ce qu'était le groupe ou le musicien concerné. Et donc ça concerne les trois styles principaux de musique qu'il y avait au début, presque au début du siècle, hein, c'est-à-dire la musique aux États-Unis a commencé vraiment à se développer et à être enregistrée de manière valable à partir de la fin des années 10, au début des années 20. On a commencé à avoir des galettes, on avait encore les cylindres chers à Edison, mais on commençait déjà à graver des galettes sur 78 tours, sur de la scie, enfin des trucs très cassants et tout quoi, qui tenaient pas beaucoup, hein, d'ailleurs c'est pour ça qu'il reste pas beaucoup. Et Robert Crumb, amoureux fou de cette période-là, lui plus du jazz, hein, on va dire.
Ouais, hein, mais c'est un très très gros collectionneur justement de ces cylindres et de ces enregistrements-là. Hein.
Tout à fait, tout à fait.
Son appartement à Paris, à ce qui paraît, on est bondé.
Ouais, ouais, mais il faut dire que quand il habitait encore aux États-Unis, Crumb habite en France depuis de nombreuses années.
Ouais, depuis pratiquement 15 ans.
Ouais, ouais, depuis le début des années 90, quoi. Quand il habitait encore aux États-Unis, il n'était pas rare hein, qu'il fasse un dessin original. Quand il avait envie d'un disque chez un collectionneur qui voulait tout prix à voir et tout, ben il faisait un dessin original qu'il échangeait contre le disque pour se composer sa discothèque.
Il fait ça pour promener.
Bon, bah écoute, hein, pourquoi ouais, pas. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez le bouquin. Alors bon, il y a quand même pas mal de trucs. Il y en a 236 pages, hein, donc hein, ça fait une centaine d'artistes ou de groupes chroniqués dans ce livre qui s'appelle Héros du blues, de jazz et de la country. Et c'est livré avec un CD. Avec un CD qu'on est en train d'écouter en ce moment, quoi, et qui comporte 21 morceaux. Alors vite fait, je vous passe les plus connus: Charlie Patton, Blind Willie McTell, Skip James pour le blues, Doc Box qu'on avait écouté juste avant. Là, c'est la Shellor Family qu'on est en train d'écouter. Il y a les East Texas Serenaders. Tout ça, c'est des groupes qui datent de fin des années 20, début des années 30, et les grands du jazz. Alors Benny Moten, King Oliver. Là, ça parle un petit peu mieux à ceux qui connaissent le jazz, et Jimmy Noon, ainsi que Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton, qu'on a tenu pour être l'inventeur du jazz. Mm. Enfin bon, c'est pas tout à fait exact. Enfin bon, il a vraiment contribué à ce que le jazz se développe. Donc Robert Crumb, héros du blues, du jazz et de la country, c'est paru aux éditions de La Martinière, qui avait déjà sorti son précédent bouquin. Mm.
Vas-y, passe-moi du tabac.
Ouha! Bon, on va parler de télé quand même.
Yo! Ah ouais, quand même.
Ouais, ouais, non, mais bon, comme je savais que j'allais déborder à fond les manettes avec les bouquins chroniqués, tout ça, le classement de des films sportifs et tout, je me suis dit, je vais faire dans le light. En plus, bah c'est vrai que cette semaine, au niveau série, bah c'est pas top. Hein. Alors bon, j'ai pas envie de faire.
Ah non, nous on vient de découvrir Hard. On s'attend à découvrir Engrenage.
Hard,
la place sur la Freebox.
Oui, oui, non, mais bon, que je vous avais chroniqué il y a 3 semaines,
oui,
hein,
oui.
Lors de son premier. Alors là, Hard, c'est les derniers là qui vont passer, hein, les numéros 5 et numéro 6. Donc après, c'est une autre série qui va reprendre dans cette trilogie sur Canal+.
Bah, si, tu l'as
vendredi
vu, toi.
Soir.
Moi j'ai pas vu, je sais pas du tout ce que c'est.
Ça passe sur Canal le samedi, le vendredi.
Le vendredi soir à
22h50. 23h
on va dire. Hein.
Introduit par Gassio d'ailleurs.
Voilà,
j'adore son speech au début. Alors je suis responsable du programme qui suit. Si vous aimez pas, c'est moi qu'il faut gueuler.
Alors donc au niveau des séries, c'est pas top, hein, on va dire. Je vais pas vous faire le sempiternel l'apparition de telle et telle vedette dans telle série, non. Bon.
Ouf. Hein,
bon. On va laisser tomber pour une fois. On va se concentrer sur le cinéma justement à la télé. Alors tout d'abord Spielberg à l'honneur, parce que bon, si vous savez pas que Indiana Jones ça va sortir mercredi prochain, c'est que bon bah vous êtes déconnecté complet quoi.
Qui ça ?
Ce qui est pas plus mal hein, des fois d'ailleurs. Alors Spielberg est à l'honneur à la télé, mais je m'attendais quand même à plus, hein, à un flow plus important de Spielberg à la télé, quoi. On a un petit peu délaissé. C'est vrai que M6 a pris un petit peu les devants en nous diffusant les trois Indiana Jones les semaines passées. Mais par contre, c'est Syfy qui a décidé de d'y aller un petit peu, on va dire un petit peu, quoi, sur Spielberg en diffusant pas mal de films. Mais malheureusement. Bon, ce sont des films qui collent quand même avec l'identité de la chaîne, mais il aurait pu y avoir d'autres films quand même de Spielberg, il n'y a pas que cela. Ça commence ce soir avec à 20h45 sur Syfy, hein, E.T. de Extraterrestrial, suivi à 22h40 de Encounters from the Third Kind, c'est-à-dire Rencontre du troisième type. Alors lundi sur Syfy à 20h45 Duel. Alors le film qui tue, qui l'a fait connaître.
Oui,
hein,
celle-là elle était facile.
Moi j'étais bluffé quand je suis allé voir, hein, quand il est sorti au cinéma et tout, quoi. Film Duel, ça a l'air intéressant, le mec avec un camion, je me suis dit tiens, ça peut être rigolo à aller voir et tout. Et là j'étais vraiment bluffé, quoi, tu vois, là putain, je me suis dit merde quoi, c'est qui ce mec et tout, quoi, c'est bien quoi. Et à 22h là, c'est là peut-être le truc le plus intéressant, c'est un documentaire qui s'appelle Spielberg par Spielberg, c'est Spielberg qui va raconter sa carrière. Donc
d'ailleurs, chose à part puisque tu pars de lundi, il sera l'invité aussi du Grand Journal
tout à l'heure à 19h.
C'est ce soir ?
C'est ce soir.
C'est pas lundi ?
C'est pas lundi.
D'accord.
Non, lundi c'est Maradona avec Kusturica.
Ah bah ça je regardais par contre.
Ça va être drôle. Il y avait Tyson hier soir. Hein.
Moi je suis en retard.
T'as pas vu Tyson ? Tu l'as pas vu Tyson ?
Non.
Ah. Magnifique.
Il était très bon.
C'est Tyson, hein. Mike. Lundi donc Spielberg pas Spielberg, ça c'est à 22h. À mardi sur Syfy à 20h45. Alors c'est pas vraiment un Spielberg parce que c'est un film à sketch, donc il y a quatre réalisateurs, vas-y dis-moi, facile et tout quoi, tiré d'une série qui a bercé l'enfance de Spielberg.
Au-delà du réel.
Oui, bon, enfin c'est... Oui, d'accord, ok. Ouais. La quatrième dimension, voilà, bien sûr, dont l'un des segments est réalisé par Spielberg, les trois autres l'étant par Joe Dante, George Miller et John Landis, bien sûr. Ouais. Voilà. Il faut suivre. Hein. Et mercredi, Syfy vous propose dans les ordres ce qu'on a déjà vu les jours précédents, à savoir 20h45, Rencontre du troisième type, à 22h55, Duel, et comme il est court, à 0h35, Spielberg par Spielberg, le documentaire. Alors, cinéma toujours à la télé, et alors là, bien, je me suis dit, je vais vous faire le truc. Toutes les soirées spéciales sur les chaînes de télé durant la semaine qui concernent le cinéma. Là, ça va dépoter quand même.
Il est 13h17, hein.
Bon, non, mais t'en fais pas, c'est
T'as
vite
la fin
fait,
du
quoi.
Championnat,
ouais, ouais,
là, tout
fait.
Ça. Le
Bah, on se contentera de ça. Hein. ce soir, sur RTL9, et c'est assez rare pour le signaler, RTL9 fait dans le Ciné-Club, quand même, ce soir, avec un spécial Hitchcock. À 20h45, Les Oiseaux, à 22h50, Frenzy. Si vous n'avez pas Hitchcock, sur Série Club, il y a deux fois Les Boeufs Carottes avec Jean Rochefort, ou sur TV Braise, deux fois Columbo. Bon, là, c'est quand même mieux que Les Boeufs Carottes, quoi. Et il y a également ce soir sur Ciné, Cinéma, Émotion, un spécial Valérie Caprisky. Oh, 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 tu m'as mouillé, là. À 20h45, L'Enfant au bout du monde, un téléfilm avec Claire Nadeau et Joachim de Almeida. Comme quoi, tu peux tourner avec Valérie Caprisky après terminer dans une bonne série américaine, tu vois. Hein, c'est le cas de Joachim de Almeida. À 22h20, Sentiments partagés avec Commissaire Moulin, Yves Régnier et Francis Perrin. Demain, sur France 2, spécial François Ozon, demain soir, avec deux films de ce réalisateur. 20h55, Swimming Pool. Et 23h05, 5 x 2. Sinon, si vous n'aimez pas François Ozon, l'homme qui sait bien filmer les nanas, vous avez également sur NRJ 12 The Inspectors x 2, la série avec les enquêteurs du service postal américain, tu sais, avec Lou Gossett et Jonathan Silverman.
Tu m'excuses, mais il y a Battlestar Galactica qui est en cours de diffusion sur NRJ 12, et quand tu écoutes au casque, parce que quand il y a une pluie de grelons, Battlestar Galactica c'est très chuchoté, hein, comme série. tu essaies de d'être au casque, ça fait t'as plein les oreilles, ouais, ouais, c'est la télé, t'as envie de zapper, même quand il y a du bon contenu.
Ouais, mais ça fait pareil avec Torchwood, je sais pas si t'as remarqué, un rediff de Torchwood sur Energy 2, c'est pareil quoi.
Ah non, mais c'est le
pareil,
traitement de
son.
Le son
ils ont mis
à la télévision le traitement de son qu'ils utilisent en radio pour les tubes S'il met Donna et Papillon de lumière, c'est, pour les séries télé, ça passe pas. C'est un métier, hein, j'ai son.
Alors sinon, demain soir sur Teva, un spécial Bruce Willis avec l'armée des 12 singes à 20h45 à 23h. Ouais, bon, je sais pas si j'en parle, quand même. Les larmes de soleil. Bon, ouais, parce qu'il y a Monica. Voilà. je le savais. Ah là là. Et à 0h30, attends, j'ai sauté une nuit. À 1h15, pardon, Hudson Hawk, Gentleman Cambrioleur.
Oh, il est rigolo.
Bon film de déconne et tout.
Rigolo.
Ça vaut le coup et tout, quoi. Ouais. C'est l'équivalent pour Bruce Willis du film que Schwarzy avait fait.
Ouais, L'Action Hero.
Voilà, c'est pareil, hein. Où il se fout un petit peu de son personnage et tout. Bon, c'est pas mal, quoi. Lundi, alors là, c'est déjà plus sérieux quand même. Sur TPS Star, un spécial Albert Dupontel avec les deux films qu'il a fait, les deux premiers qu'il a fait. Dans le désordre, c'est con. Il commence par Le Créateur, qui est moins bon que Bernie. Le Créateur, c'est à 20h55, alors qu'à 22h30, vous avez Bernie Dupontel.
Si
ça, c'est TPS Star.
Si vous êtes breton, faut pas voir Le Créateur.
Ouais, bon, bah laisse tomber, quoi.
S'il dit que les Bretons, ça sert à rien, et ils butent du Breton pour que la pièce s'écrit toute seule.
Je l'ai vu il y a tellement longtemps, je m'en souviens plus trop.
Sur TMC, lundi prochain, alors là, c'est pas vraiment... c'est parce que c'est deux bons films, quoi. Alors là, c'est TMC également qui fait dans le film qui va bien et tout. Tout d'abord, un film qui délasse et tout, avec des répliques cultes, quoi. C'est Le Dernier Samaritain de Tony Scott avec Bruce Willis et Damon Wayans, à avoir quand même. Bon, là sur TMC ça va être en version française, mais à voir en version originale, parce que là c'est vachement mieux, quoi. Et à 22h30, alors magnifique Christopher Walken dans King of New York d'Abel Ferrara.
Ah, ça, ok.
Sur France 4,
j'y approuve.
Alors sur France 4, c'est une nouvelle initiative, et là ça vaut vraiment le coup. Vous étiez un petit peu jeune pour avoir suivi cette émission dans les années 80, et pourtant c'était l'émission de référence en ce qui concerne le cinéma, parce qu'elle dépassait le cinéma. C'est cette fameuse émission qui était sur France 2 et qui s'appelait Cinéma, et dont Jean-Pierre Jeunet, eh bien, a fait une émission complète dans laquelle il va repasser les chroniques et les séquences les plus marquantes de cette fameuse émission Cinéma, qui a duré 4-5 ans quand même, hein, et vraiment c'était le rendez-vous incontournable, quoi, en ce qui concerne les gens qui aimaient le cinéma. Donc c'est la collection Cinéma sur France 4, lundi à partir de 22h20, c'est présenté par Jean-Pierre Jeunet. Il vaut mieux qu'il présente ça plutôt que genre de... bon, j'ai rien dit.
D'accord, générique.
J'ai rien dit. Mardi, toujours cinéma, émotion. On vous propose un spécial Jim Carrey avec à 20h45 The Majestic de Franck Darabont. Bon, d'accord. Mais par contre, à 23h15, Marathon Man on the Moon.
très bon
de Miloš Forman, avec qui raconte la carrière d'un super comique américain qui s'appelle Andy Kaufman. Sur Cinéma Star, mardi prochain également, spécial Depardieu avec trois films, dont deux dispensables, mais l'un que si tu l'as pas vu, que tu l'as jamais vu, il serait quand même temps de le voir, parce que putain, ça fait un bout de temps qu'il est sorti, c'est Buffet froid, à 20h45, et qui est magnifique, avec Blier, avec Carmet, et même avec celle qui l'allait niquer 30 ans plus tard, Carole Bouquet. Dans le bateau, rappelle-toi, dans la barque. Bon, tout ça, donc, c'est sur Cinéma Star, mardi prochain. Mercredi prochain, Cinéma Star, un spécial De Niro, avec à 20h45 le film de Schlesinger, Le Jeu du Faucon, avec également Timothy Hutton. À 22h55, le film de Kazan, Le Dernier Nabab, tiré du bouquin de Scott Fitzgerald. Et à 0h55, Deer Hunter, autrement dit,
Voilà, au bout de l'enfer.
Voilà. Non, mais j'attendais le spécialiste là.
Mercredi. Il n'est plus le spécialiste de l'émission.
Il a vu Jenna Jameson. Il en peut plus.
Avec Robert Englund.
Ça t'a frappé aussi, hein, oui. Jenna Jameson avec. Mais elle a arrêté le X, hein, je te signale. C'est fini. Elle ne fait plus de X, Jenna Jameson. Elle ne tournait déjà plus que des scènes lesbiennes depuis 2-3 ans. Et là, elle a complètement arrêté. Elle reste néanmoins productrice.
Donc, The Deer Hunter, oui.
Parlons à présent de ce qui va se passer. Alors mercredi prochain sur Action, spécial Raoul Walsh, ouais, avec à 20h40 Le Cri de la Victoire de 55 avec Van Heflin et Aldore, et à 22h50 Les Géants du Ciel de 48 avec Edmund O'Brien et Robert Stack, qui, si je me souviens bien, si je me plante pas de film, c'est un film qui raconte les péripéties de d'anciens pilotes après la guerre qui pour se pour ne pas perdre la main, ben faisait des shows acrobatiques aériens dans les aux États-Unis. C'était assez courant hein, après la guerre.
Dans
et
les
tout,
années
quoi.
20.
Non, après la Deuxième Guerre mondiale quoi.
Ah après la Seconde, ok.
Voilà et donc bon c'est magnifique, hein, c'est vachement bien quoi, c'est super et tout quoi. Donc 22h50 Les Géants du Ciel en cas de Raoul Walsh, c'est sur la chaîne Action mercredi prochain. Jeudi, devine qui revient. Steven, TF6 nous fait un spécial Seagal avec bon deux films sont pas trop pourris hein, c'est pas les derniers. L'ombre blanche à 20h45 et Échec et mort à 22h20.
Ah, parce que tu parlais de Spielberg au début de ta chronique, j'ai cru que c'était retour de Spielberg.
Ah non, mais je te dis
il y a Thomas, t'as l'esprit mal placé.
Non, il y a que Spielberg sur Sci-Fi quoi. Hein. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus quoi, que ce soit inondé de Spielberg quoi sur pratiquement toutes les chaînes. Ah, non. Hein. Ouais. Non.
C'est inondé de Steven au pluriel.
Ouais, le Steven, ouais. Sur Cinéma Star, un spécial Steven Pacino avec à 22h30. Frankie et Johnny. Qui est pas mal, hein, c'est gentil, quoi, avec Michel Pfeiffer en plus et tout, quoi. Ils s'étaient bien aimés et tout, quoi, donc ils ne se sont plus quittés. À 0h25.
Non, mais c'était bien, sérieux.
Non, mais il est bien ce film en plus,
tout
quoi.
Tout à fait.
Ouais. Bon, il n'y a pas de baston et tout, c'est sûr, les chorégraphies sont nulles à chier, mais bon. C'est quand même bien, quoi. À 0h25, La Chasse. Alors là, j'ai vu le titre, je me suis dit, ils sont complètement malades. Alors là, c'est traduction à la con, parce que c'est le titre original, c'est bien sûr Cruising, de William Friedkin, la plongée dans le milieu homo-gay de New York, début des années 80. Yeah. Le film à propos duquel Friedkin a déclaré « Je travaillerai plus jamais avec Pacino, c'est vraiment un connard, branleur et tout. » Enfin, moi, il était très déçu hein, par l'attitude de Pacino sur ce film. Et jeudi prochain également, sur Cinéma Classique. Alors là, bon, ouais, rien à dire, c'est à voir et à revoir. Spécial Peckinpah avec à 20h45. Le film dont je crois le générique est également de Lalo Schifrin. Enfin, il avait fait le Bullet, mais là il s'agit de Getaway, Guet-apens, hein, donc Steve McQueen, Jacqueline Bisset avec une putain de claque à Bisset quand il sort de trou et tout, tu sais quoi, parce que c'est tiré d'un bouquin de Thompson et tout quoi, où on sort le mec du trou et tout quoi pour faire un casse et tout quoi, mais enfin il se rend compte qu'il a été manipulé et tout quoi, et puis bon il va pas du tout apprécier et tout quoi. Et il y a une scène vers la fin du film dans l'hôtel, là quand il rentre dans l'hôtel, une fusillade au cadencier et tout, enfin bon, il y a tout ce qui c'est magnifique, c'est géant quoi, de toute façon, c'est Getaway, donc de Peckinpah, c'est jeudi prochain, suivi de à 22h45, un nommé Cable Hogue, avec quand même Jason Roberts, Stella Stevens, la maman de Andrew Stevens, et David Warner qui à l'époque était super jeune. David Warner qu'on a vu d'ailleurs dans une sorti à la Cinémathèque, film anglais l'année dernière, hein, donc où David Warner était dans deux films, je sais pas si vous vous rappelez quoi.
Non.
Bon, d'accord. Et à 0h45, c'est peut-être le plus intéressant, c'est un documentaire de 2006 de deux Italiens, Umberto Belenghini et Michelangelo D'Alto, à propos du même Samuel Peckinpah, jeudi prochain donc. Et je termine avec vendredi, cinéma premier colle un petit peu quand même à l'actualité avec son double programme du vendredi soir consacré non pas à Spielberg mais à Indiana, c'est-à-dire Harrison Ford, avec à 21h Présumé innocent, le Pacula de 90, qui est pas mal quoi, franchement quoi. Il y a le twist final qui est rigolo, qui a été refait maintes fois après par la suite, mais enfin bon, à l'époque c'était quand même assez prenant quoi. Et avec bon surtout les seconds rôles, Brian Dennehy, Raoul Julia et Bonnie Bedelia. Et à 23h05, spécial joyeux anniversaire Sabrina, la reprise de Polak en 95 avec Julia Ormond et bien sûr Harrison Ford.
Joli. Bah oui, l'anniversaire de nos copines respectives. Thomas, t'as quelque chose à dire? Moi j'ai un joyeux anniversaire à dire à Chantal.
Il en reste quoi?
Oui, joyeux anniversaire Sabrina.
Voilà. En plus, du coup, on a inauguré le nouveau site.
De toute façon, oui, mais Sabrina, là, à cette heure-ci, elle nous écoute plus. Alors...
D'accord, ok. Bon, tu peux.
Non.
Ok, générique alors.
D'accord, oui, vaut mieux.
Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris le programme en cours de route.
Nous avions une émission en direct de Cannes aujourd'hui. Non, même pas. Nous avons eu un invité surprise, JB, qui nous a fait le plaisir de venir nous voir. Nous avons eu beaucoup de nécro bande dessinée du manga de jeux vidéo de la bande. De... Attends, j'essaie de me relire. De la Boost de super-héros, du super-héros alcoolo, de la Navis, un quiz, un top 5 sur les films de sport, des Skrulls transformés en vaches, des soirées spéciales cinéma à la télé, des Steven en pagaille.
Nom d'une petite coccinelle échappée d'une rubrique à braque. Vous avez loupé tout ça. Heureusement, il y a... Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives. Laissez vos commentaires, posez vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web Supplément Week-end, sans accent ni tiré, supplémentweekend.tk. Premier podcast d'une émission de radio francophone. Je peux m'en vanter, tralalère. La suite des programmes sur Radio FMR avec votre cahier sportif dans les médias. À 15h, c'est du reggae avec Zarma Ferrari. À 17h, la découverte musicale avec Ça, c'est la bonne viande. 18h, retour du rock avec Big Bang. 19h, Made in Trance, de la musique électronique. 20h, de l'électro bien barré avec L'Acetero Experience avec DJ Jésus. 21h30, Neuf Love, c'est du two-step. Et à 23h, du rock live avec Le Potager. C'était le supplément week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, promis, on devrait être en poste. Même heure, même fréquence. Je ne sais pas. Moi, j'ai rien d'annoncé à l'avance.
Non, je ne sais même pas de quoi j'ai parlé. Donc
j'ai plein de BD là en stock. Je sais pas. Tu veux repasser, JB, un de ces quatre?
Avec grand plaisir. C'est juste que je finis à midi. Je reprends à 14h. Donc je me dépêche.
Bah, sinon, tu peux participer au podcast.
Je sais pas comment. Il faudra que tu
tu insères ta voix après pour faire tes commentaires. Donc.
Oui, on verra ça.
En doublage polonais par-dessus.
D'ailleurs, chose à part, on est la fête nationale norvégienne aujourd'hui.
Ah, ben...
Bravo, sincère, félicitations. Allez, hop, ciao, bye.